RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Antoine Gers, consultant juridique, Fatima Haïd-Bounois, la prof de français, Abel Boyi, l'éducateur. On parlera de la Coupe du Monde tout à l'heure à midi moins 20 parce qu'elle commence demain avec Mexique, Afrique du Sud. Mardi prochain, il y aura le match de l'équipe de France. 48 équipes, 3 pays, le Canada, les États-Unis, le Mexique. C'est la grande fête du football qui va démarrer.
Une couverture exceptionnelle sur RMC.
La radio de la Coupe du Monde. Est-ce que vous l'attendez avec impatience, cette Coupe du Monde? Est-ce que ce sera la bouffée d'oxygène? Est-ce que vous en avez besoin de cet événement? Vous emballez, voyez, pour les équipes, pour les Bleus, vous en parlera à midi moins 20. On évoquera aussi le cas dans le Jura à Dole de cet homme qui voulait faire graver le nom de son chien, de son compagnon qu'il a aidé à tenir dans la vie sur sa pierre tombale. Bah, la mairie lui interdit. Bon, ça paraît bizarre. Il dit mais, non, il dit, je veux juste mettre le nom parce que après la mort de ma femme, il m'a aidé à tenir. Ça a été l'autre compagnon de ma vie. On lui dit, non, c'est pas le code des cimetières, ça, monsieur. Est-ce que c'est scandaleux? Vous venez en parler avec nous à 11h. Mais en attendant, on va accueillir notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Face aux grandes gueules, notre confrère de Valeurs Actuelles, Tuc Dual-Denis, avec ce livre sur la droite, un livre assez intime. Vous parlez beaucoup de vous, de votre famille. Ça s'appelle La cendre et le feu aux éditions Robert Laffont. Bonjour, Tuc Dual.
Bonjour, Alain. Bonjour, Olivier. Bonjour à tous.
Je vais commencer par un extrait du livre.
Eh bien, écoutez, avec grand plaisir.
Je le regarde sous la pluie, son jerrycan d'essence à la main, son sourire protecteur, sa veste trempée, ses cheveux noirs bien peignés malgré le grain. Tout ruisselle. En devenant ami avec mon idole, j'ai réalisé le rêve de ma vie. Moi, je me suis dit, il parle de, tu vois, de Jagger, de Springsteen.
Et tout d'Alain Marchal, peut-être.
Tout d'Alain Marchal. Non, il parle de François Fillon.
Eh oui.
François Fillon.
Tout à fait, j'ai retrouvé.
Vous n'en êtes pas remis de François Fillon.
Non, je n'en ai pas remis.
C'est une lettre d'amour, là, écoutez, François Fillon. Il y a un chapitre qui s'appelle François.
Exactement. Vous me connaissez un peu, effectivement. Vous savez que je suis très filloniste. J'ai écrit un livre sur lui en 2019 chez Plon à l'époque. Et là, dans ce portrait de la droite, à travers ces paysages et ces personnages, je ne pouvais pas à la fois ne pas emmener le lecteur dans la Sarthe, où par ailleurs je possède une maison. Je suis tellement filloniste que je me suis aussi acheté une maison dans la Sarthe. Et en même temps parler de l'héritage du fillonisme, parce que blague à part, effectivement, je sur le plan personnel, je dis que je suis devenu ami avec mon idole. Il a fallu d'ailleurs pour cela que je cesse d'être un fan. On a maintenant une relation, je pense, entre guillemets, un peu équilibrée.
Il a fallu qu'il perde, surtout.
Oui, effectivement. Non, mais c'est très juste ce que vous dites. François Fillon serait devenu président de la République. Je ne serais pas devenu aussi proche de François Fillon, ça c'est absolument certain. Et en même temps, moi je vous avoue, et d'ailleurs y compris quand pour préparer des passages sur BFM, quand j'ai l'honneur de venir dans votre tranche, j'appelle souvent François Fillon pour lui demander qu'est-ce qu'il pense du modèle social français, qu'est-ce qu'il pense de Bruno Retailleau. Qu'est-ce qu'il pense d'Edouard Philippe? Qu'est-ce qu'il faut dire sur les soubresauts géopolitiques? Et je vous garantis, alors je suis peut-être pas très objectif, mais je vous garantis.
François Fillon, c'est ventriloque, il parle par la voix de Tuc Dual-Denis, alors c'est taillé.
Non, mais honnêtement, je suis peut-être pas très objectif, mais moi je vous garantis qu'il a gardé une acuité sur les choses qui se passent dans ce monde tout à fait phénoménal. Et par ailleurs, il représente, parce qu'il y a aussi un peu de fond sur ce qu'est la droite dans ce livre, pour moi, il représente la droite aboutie, c'est-à-dire qu'il y a la radicalité chez François Fillon. Honnêtement, le François Fillon de 2016-2017, et puis même aujourd'hui que je fréquente, il est plus radical que celui qui était ministre des Affaires Sociales ou Premier ministre pendant 5 ans de Nicolas Sarkozy. Et en même temps, il y a cette espèce de sophistication, c'est-à-dire que contrairement à d'autres personnages aujourd'hui dans le plateau politique, on sait que lui, il sait piloter l'État, il a quand même une expérience. Et moi, c'est tel
chose. Justement, le François Fillon ne sera pas a priori candidat à l'élection présidentielle pour la prochaine. Quelle est la droite qui, selon vous, a le plus de chance? La droite Édouard Philippe, c'est pas vraiment votre droite? Ou la droite Bruno Retailleau? Ou la droite Bardella, si c'est Bardella plutôt que Le Pen?
Je pense que la droite est dans une situation totalement paradoxale, c'est-à-dire que sur le plan politique, c'est très compliqué de voir qui peut prendre le lead, pour parler en bon français. Chacun a des qualités, chacun a des défauts, j'y reviendrai. Et en revanche, ce qui m'a frappé, et c'était un peu à la base de mon projet aussi, c'était de faire le roman de la droite, c'est-à-dire raconter comment elle vit, comment elle se fréquente, ses réseaux, ses maisons de famille, son histoire, ses tenues, ses musiques. Et cette droite-là, elle est brûlante, elle est incandescente. En tout cas, moi, j'ai voulu rendre cette incandescence en expliquant effectivement qu'est-ce qui se passait dans le jardin de Philippe de Villiers, dans la maison de François Fillon, quand je marche au Havre avec Édouard Philippe. On est allé à la Trinité-sur-Mer avec Marine Le Pen. J'ai assisté aux obsèques, aux doubles obsèques entre guillemets de son père, et j'ai vu quelque chose qui voulait parler de la droite.
Parce que Marine Le Pen, elle, ne se revendique pas de droite.
Oui, mais ça,
contrairement à son père.
Moi, je suis désolé. C'est pas parce que Marine Le Pen se revendique pas de droite qu'elle a pas sa place dans mon livre, ou c'est pas parce que certains de mes amis pensent qu'Edouard Philippe est de gauche, qu'il n'a pas sa place dans mon livre. Moi, Marine Le Pen, quand je parle avec elle, on a grandi au même endroit, Saint-Cloud. J'étais au collège à 250 mètres de là où elle habitait. On fréquentait, entre guillemets, les mêmes territoires. On écoutait les mêmes musiques. Elle connaît aussi les mêmes cantiques. Et quand on a discuté longuement pour ce livre de la mort de Jean-Marie Le Pen, des obsèques de Jean-Marie Le Pen, que ça soit à la Trinité ou au Val-de-Grâce, il y avait une espèce de symbolique qui est très droitière, et c'est pareil pour François Bayrou.
Vous mettez tout le monde dans la même famille, parce qu'on pourrait confondre, enfin on pourrait distinguer la droite de l'extrême droite.
Écoutez, moi je pense que l'union des droites, elle n'existe pas aujourd'hui sur le plan électoral. Par ailleurs, c'est un projet politique sur lequel, vous voyez, j'aurais tort de vouloir mettre mes doigts, parce qu'il y a que des coups à prendre, et moi je sais pas si c'est possible, je sais même pas si c'est souhaitable. Moi, je pense plutôt qu'un jour, il y a quelqu'un en mode politique de l'offre qui arrive à prendre le leadership et l'autorité sur la droite.
Ce qu'a fait Sarkozy en 2007.
Sarkozy en 2007, exactement. Ce qui a failli réussir à faire François Fillon en 2016. En revanche, il y a une union des droites sur le plan charnel. Quand je vais à Bayrou pour le livre avec avec François Bayrou pour le livre dans les Pyrénées, et qu'il me reçoit dans sa mairie aveuglée d'un soleil blanc avec la vue sur les cimes des Pyrénées, ou qu'on prend la voiture et qu'on va à Bordère, le village où son père, qui était agriculteur, est mort dans un accident de ferme, qui me parle des lectures de son père, qui me parle de Bernanos, qui me parle de la crise intérieure française, qui me parle de l'identité française, ou quand je vais avec Édouard Philippe au Havre et qu'on discute et qu'il me dit que aujourd'hui, sauf à vouloir l'humilier, plus personne le qualifie de juppéiste, qu'on débriefe ensemble dans un restaurant libanais qu'on aime beaucoup là-bas, ce qu'il a l'appel à la démission qu'il a fait d'Emmanuel Macron, et qui m'explique qu'aujourd'hui il vit la vie de Marine Le Pen, c'est-à-dire que 80% des gens qu'il croise sont d'accord avec lui, et ça c'est les vrais gens, et que les 20% qui restent, en fait c'est ses amis à lui, c'est-à-dire des conseillers d'État, des hauts fonctionnaires, des anciens ministres, des gens entre guillemets de l'establishment, et qui me dit, ça y est, je viens de comprendre à l'âge que j'ai ce que pouvait être la vie de Marine Le Pen, c'est-à-dire en fait tout le monde est d'accord avec vous, sauf les soi-disant sachants.
Alban.
C'est le prénom de mon frère.
Oui, non, mais c'est parce que c'est. Je voulais après parler du passage sur votre frère, qui est très émouvant, très touchant, votre frère Alban, qui est devenu prêtre.
Exactement, ouais. Avec plaisir.
Alors, quand j'ai reçu l'ouvrage, honnêtement, j'y suis allé à reculons, mais je dois reconnaître une grande honnêteté intellectuelle. Et ce qui est fort dans cet ouvrage, c'est qu'il aurait pu se décliner sur la gauche aussi, avec les personnalités de gauche et l'histoire de la gauche. Quand on finit, on a l'impression quand même d'une droite qui semble meilleure dans l'opposition que quand elle est au pouvoir. Vous parlez beaucoup aussi des réseaux, des familles, des codes, des écoles, des cercles. Mais aujourd'hui, la droite, n'est-ce plus qu'une culture ou est-ce toujours un parti politique ? Parce qu'avant, les réseaux nourrissaient des travaux qui étaient déjà enclenchés dans les partis. Tandis qu'aujourd'hui, on a l'impression, peut-être à tort, que ces réseaux prennent le pas sur le travail idéologique des partis.
Vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça d'ailleurs que j'explique dans mon livre, en prenant une métaphore, le phénomène des Fata Morgana, c'est des mirages qui sont dits supérieurs, où une couche d'air chaud vient se superposer sur une couche d'air froid, et on observe ce phénomène dans des endroits assez particuliers, comme le détroit de Messine, entre l'Italie et la Sicile, ou dans la baie des Chaleurs au Canada. Et en gros, pour moi, c'est ça qui est en train de vivre la droite, c'est cette espèce d'énorme mirage, où vous avez l'air chaud, c'est les audiences de certaines chaînes de télévision, de certaines émissions, l'influence de certaines têtes de gondole de la droite, les ventes de livres, un allant général quand même de la droite dans le débat public. On entend, y compris dans la bouche de gens de gauche, dire que ah, la droite revient en force, voire il y a une alliance de l'extrême droite et de la droite, etc. Et en même temps, une offre politique compliquée, parce qu'il ne se passe rien de droite dans ce pays, objectivement, je veux dire sur la fiscalité, sur les flux migratoires, sur l'éducation.
Emmanuel Macron n'a pas fait une politique de droite parce que certains l'accusent d'avoir fait une politique de droite.
Écoutez, moi, pas assez à mon goût. Pour moi, il a fait du en même temps, donc c'est-à-dire du sur place. Et puis, longtemps, la droite aussi au pouvoir n'a pas réussi à faire une politique de droite.
En fait, à droite, on l'accuse de faire une politique de gauche, et à gauche, on l'accuse de faire une politique de droite. Où est la vérité, en fait?
L'ambiguïté, c'est que Macron a plus mis des gens de droite au pouvoir, notamment à Matignon, Édouard Philippe, Jean Castex, Sébastien Lecornu, les principaux ministères sont confiés en ce moment à des gens de droite, Catherine Vautrin, Gérald Darmanin. Donc quand vous dites il y a pas de droite, etc. Les Français disent il y a des gens de droite qui sont au pouvoir.
Il y a des gens de droite qui sont au gouvernement. Ça, j'aurais du mal à vous contredire. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur l'inversion des flux migratoires ces dernières années? Qu'est-ce qui s'est passé sur la fiscalité des entreprises ces dernières années? Qu'est-ce qui s'est passé sur la composition du Conseil constitutionnel ces dernières années?
Les entreprises, ça a baissé quand même. Reconnaissez que
oui. Non, c'est pas là-dessus que Macron a été le plus à gauche. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur la mémoire historique française ces dernières années, qu'est-ce qui s'est passé dans le domaine de l'éducation, de la justice? On le voit avec l'affaire Liana, si vous voulez. C'est quand même un symptôme à la fois du laxisme et du dérèglement judiciaire que la droite aimerait inverser.
Et pourtant, Fatima, c'est un garde des sceaux qui est de droite.
Eh bien, je sais bien.
Fatima.
Alors, quand on lit votre livre, c'est moins une enquête. C'est pas vraiment une enquête sur la droite, c'est plus un tableau. Vous qualifiez vous-même de tableau, effectivement, un tableau où c'est votre autoportrait qui se dessine en creux, et ma question c'est, et on vous voit très fan, effectivement, presque fasciné.
Romantique même.
Oui, il y a vraiment, et moi je trouve ça fascinant parce que je ne suis pas du tout comme ça. Donc la plupart du temps quand j'ai le fait de côtoyer des politiques, non, je ne suis pas fasciné par les personnes.
Ouais.
Mais vraiment, j'ai
par les responsables politiques.
Non, mais c'est pour ça que je ne suis pas, par les responsables politiques. Et souvent, j'ai été déçue la plupart du temps, et je pense que je partage ça avec Antoine, on en parlait juste avant, cette déception. Donc, ma double question, c'est la suivante. D'une part, est-ce qu'on peut rester un journaliste crédible et audible en étant aussi fan? Donc, est-ce qu'on ne va pas vous reprocher cette subjectivité,
cette proximité,
même si elle est assumée, pardon? Et la deuxième, est-ce que vous avez été déçu, vous aussi, et par qui?
Alors écoutez, moi je n'ai pas la même maladie que beaucoup de mes confrères de journalistes politiques qui ont à la fois une fascination et une répulsion pour les personnalités politiques ou le monde du pouvoir, qui passent leur vie à écrire sur le pouvoir et les politiques, et en fait on ressent dans leurs articles qu'à la fin ils ne les aiment pas. En tout cas, certains de mes confrères sont comme ça. D'ailleurs, c'est pas vraiment une maladie, c'est une manière, une méthodologie peut-être chez eux. Moi, en revanche, je vous avoue que j'ai voulu devenir journaliste politique parce que j'adore les hommes politiques, y compris des gens pour qui je vote pas. Et que, effectivement, moi, pouvoir côtoyer ou discuter avec Sébastien Lecornu, Édouard Philippe, François Bayrou, Marine Le Pen.
Et à gauche, qui vous aimez, par exemple?
François Fillon. Jean-Luc Mélenchon, j'ai été rubricard, j'ai un chapitre que je lui consacre, j'ai été rubricard à l'époque où je travaillais à l'Express, où je m'occupais de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. En 2012, j'ai fait tous ses meetings, j'ai pris le train avec lui, des taxis avec lui, j'ai discuté avec tous ses conseillers. Et honnêtement, j'ai vécu des moments très forts, quoi. Je me souviens d'un meeting au Zénith de Clermont-Ferrand, en Auvergne, qui était dinguissime. Je me souviens du meeting sur la grande plage à Marseille, du grand meeting sur une plage à Marseille à la fin de la campagne, où il y avait je sais pas combien de dizaines de milliers de personnes. J'ai vu cet homme avec sa scansion, avec sa rhétorique, avec sa sophistication, avec ses convictions aussi advenir. Et puis j'ai aussi vu Jean-Luc Mélenchon de très près se cracher pendant la campagne des législatives qui a suivi, où il était allé défier Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais. Et je raconte des scènes où on a fini par s'engueuler parce qu'il m'accuse d'être personnellement lié à l'extrême droite. Alors, ce qui est partiellement vrai au sens où je viens d'une famille très à droite, mais ce qui est déjà se dit pas. Parce que je vois pas en quoi je suis lié à ma famille dans mon job journalistique, et puis
faut jamais s'excuser pour sa famille,
et que par ailleurs j'ai trouvé ça très en dessous de la ceinture. Mais en même temps, je regrette pas du tout d'avoir pu côtoyer Jean-Luc Mélenchon.
Vous assumez, vous aimez les hommes politiques.
Donc moi, je trouve que c'est des gens à la des personnalités.
Mais vous pouvez garder une certaine distance quand même nécessaire. Alors, dans ce métier.
Écoutez, là vous avez eu la gentillesse de dire que c'était assumé chez moi. Et effectivement, certains diront ça va trop loin dans la proximité. Mais ce que j'ai essayé dans ce livre, en tout cas, c'est d'être authentique. Donc c'est-à-dire que quand j'aime bien des choses, c'est Édouard Philippe, quand bien même, soi-disant, c'est pas la droite valeur actuelle, je le dis. Quand j'ai passé des bons moments avec Marine Le Pen, quand bien même c'est pas chic de le dire, je le dis. Et j'espère qu'on retiendra au moins ça pour ma défense, entre guillemets.
Moi, je voudrais m'exprimer en tant que militant de droite. C'est-à-dire que moi, voilà, j'ai longtemps été un militant. J'ai commencé à 15 ans chez Philippe de Villiers, au Mouvement pour la France. Je suis passé à l'UMP, puis au LR. J'ai fait une campagne de Sarko. Et ensuite, j'ai fait la campagne de Zemmour. Donc, vous voyez, tous les pans de la droite, je les ai croisés, connus. Mais je les ai croisés en tant que militant. Oui. Et il y a une vraie différence entre dépeindre la droite comme vous le faites depuis le côté journalistique, avec peut-être une fascination pour les grands hommes politiques, là où moi, ma droite, c'est la droite des militants. Je vais être presque brutal, j'ai le sentiment que vous faites un tour dans un cimetière, en fait, dans votre livre. Parce qu'ils sont tous déjà morts. Ils sont tous déjà morts. Ils sont encore fascinants. Mais c'est la droite d'hier. C'est la droite très catho, très de l'Ouest. Et moi, j'ai connu une droite des militants. Je pense à tous mes camarades de l'Uni. Et je vois une droite qui est très différente de tous ces hommes. Et donc, précisément, je pense que votre livre doit être vu comme un livre d'histoire. C'est-à-dire que c'est la droite ancienne. C'est la droite traditionnelle.
C'est quoi la droite
et
nouvelle, alors?
Précisément, parce qu'on reste trop fasciné par cette droite historique, la droite est incapable de se recréer. Et il y a partout en France des militants de droite qui espèrent un renouveau et le renouveau n'apparaît pas parce qu'on est bloqué par les figures tutélaires de Sarkozy, parce qu'on est bloqué par la figure cathodique de Philippe de Villiers qu'on regarde à la télé. Et en fait, ces gens-là sont responsables, d'après moi, de l'incapacité pour la droite normal, entre guillemets, de se renouveler.
Alors, comme dans mon livre, il y a quand même énormément de choses sur Bruno Retailleau, sur Édouard Philippe, sur Marion Maréchal ou sur Marine Le Pen, vous m'accorderez que eux sont pas encore dans le cimetière de la politique.
Ah, bah si.
Parmi ceux-là, il y a au moins deux candidats à la prochaine élection présidentielle. Oui, mais après, j'assume le côté un peu mémorialiste de mon camp. Ça, c'est totalement assumé. Et d'ailleurs, je dis, je crois, la deuxième phrase de mon livre, que je suis trop jeune pour me retourner, mais qu'en même temps, j'ai déjà envie de rendre hommage. Donc, que je voulais pas patienter trop longtemps avant de le faire. Et après, pour ce qui est des militants ou des vrais gens entre guillemets, il y a effectivement deux types de personnalités dans mon livre. Il y a des personnalités publiques et là effectivement on est dans les salons du pouvoir, on est dans les coulisses de la politique un peu parisienne, je vous le concède. Et après vous m'accorderez qu'il y a énormément de choses aussi sur des personnalités privées et j'ai raconté mon enfance dans la banlieue ouest, le scoutisme, les gens que je croisais à l'école, des gens totalement anonymes qui se font aujourd'hui partie de mon entourage, de mon réseau, de mes amitiés et qui n'ont pas renoncé à changer le monde et qui le font de manière tout à fait discrète. Et je raconte leurs goûts musicaux, la manière dont ils élèvent leurs enfants, là où ils vont à la messe, des curés anonymes, dont mon frère d'ailleurs.
Ouais.
Et que donc ça, c'est
la messe en latin.
Exactement.
Mais pourquoi vous êtes aussi marqué par votre frère qui est devenu prêtre?
En fait, je suis très marqué par mon milieu, parce que je suis très marqué par un milieu que j'ai tout de suite ressenti comme archétypal. J'ai grandi en étant conscient devant l'évidence que j'appartenais à une famille totalement anormale, entre guillemets. Nous étions devenus des anomalies par rapport à la manière dont se construisait le monde, la modernité, effectivement. Il y a un côté très passéiste. Et en même temps, j'ai eu une rébellion face à ça. Je raconte des passages d'émancipation dans le livre, un voyage à Cuba notamment où j'avais pu croiser Angela Davis, etc. Et d'autres musiques, d'autres couleurs, d'autres paysages et vers lesquels j'ai eu besoin de me tourner. Et en même temps, c'est ce milieu, six enfants, messe en latin, décriés, moqués. Quand on prenait le train de banlieue et qu'on était tous habillés pareil en cyrillus, je voyais bien que les gens nous regardaient d'un air goguenard et extrêmement moqueur. Et Alban, qui est mon frère prêtre, et pour moi évidemment la quintessence de ça, c'est-à-dire que lui il est carrément en soutane, il dit la messe en latin, il a une vie de prêtre, hein, donc c'est-à-dire tous les jours il lit son bréviaire, il est pas entre guillemets dans le vrai monde, et en même temps pourtant c'est quelqu'un de très jovial et très sociable. Il a fait énormément de sacrifices, une vie de prêtre aujourd'hui avec toutes les histoires qu'il y a dans l'Église, c'est aussi une vie de calomnie, de moquerie, très à contre-courant, et il m'apporte beaucoup parce que comme il est beaucoup plus détaché du monde que moi, il m'apporte un regard sur les choses, une métaphysique, des élans spirituels qui, je pense, sont assez universellement louables.
Merci Tuc Duhal Denis d'être passé par les GG, La cendre et le feu aux éditions
Robert Laffont. Très original, parce que c'est pas un livre politique. C'est pas un livre de journaliste politique comme les autres, parce qu'il est à la fois très personnel et en même temps on apprend beaucoup de choses aussi sur ces hommes de droite que vous fréquentez. Donc moi je le conseille parce que c'est assez différent de ce qu'on peut lire habituellement de la part des journalistes politiques en France.
Merci beaucoup, grande gueule.
Merci Tuc Duhal. Dans un instant, cet homme, et je sais que Romain voulait poser une question. Désolé Romain, on est tenu par le temps, mais si vous permettez pour compenser. Tuc Duhal va vous signer un exemplaire de son livre, il va vous le dédicacer et je vais vous le faire envoyer. Dans un instant, cet homme qui veut mettre le nom de son chien sur sa pierre tombale, ça a été le compagnon de sa vie, son compagnon de route, on lui interdit. Vous venez en discuter avec nous au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
h 25, Fatima Hidbounois, Antoine Dirce et Abel Boyi, voilà nos trois GG. On va continuer de discuter, de parler avec vous au 32-16. Là, on va s'intéresser à ce qui s'est passé à Dole dans le Jura, ou plutôt à ce qui se passe à Dole dans le Jura.
T'avais pas vu Mirza ?
Vous n'avez pas vu Mirza, Nino Ferrer à réécouter. Nous sommes à Dole, dans le Jura, avec Patrick. Il a 68 ans et Patrick voudrait faire graver sur sa tombe le nom de son lévrier qui est mort.
Et qui s'appelle Vanaïs. Alors ce lévrier,
il n'a rien à voir avec Sainz.
Non, Vanaïs, oui, Sainz, elle est bonne.
Je ne sais pas si elle est bonne finalement, mais bon, j'ai pas pu la laisser passer.
Non, Vanaïs est mort, mais donc c'était son lévrier. Je ne sais pas si c'est Vanaïs est féminin ou masculin d'ailleurs.
Bon, bref, tu dirais pas le vrai de toutes les façons, t'inquiète pas.
Le chien est mort, mais pour Patrick, il a été très important dans sa vie. Et il veut saluer sa mémoire en inscrivant son nom sur la concession qu'il a réservée. Or, la mairie dit non, puisqu'on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de le faire déjà parce que Vanaïs n'est pas enterré dans ce cimetière. Or, la loi dit qu'on ne peut mettre les noms uniquement des gens qui sont enterrés dans le cimetière, dans la tombe, concernés.
Je suis désolée, donc, vos blagues sont tellement nulles.
Oui, mais il faut toujours plaisir. Et donc, est-ce que le maire a raison de faire respecter le code des cimetières, ou est-ce qu'il faut permettre à Patrick, puisque c'est Patrick, il a 68 ans, de pouvoir mettre Vanaïs, parce que vraiment, il a été très important pour lui, il a perdu sa femme, enfin, c'est quelqu'un, c'est un chien qui l'a accompagné toute sa vie.
Il dit lui-même, ce chien m'a sauvé
tout
la
fait.
Vie.
Il l'emmenait sur son lieu de travail, il dit, il faisait des bisous à tout le monde sur le chantier.
C'était un compagnon, un vrai compagnon de
un
groupe.
Un peu comme Anaïs.
Anaïs.
Non, vous êtes... Votre blague est nulle. En plus, le sujet important là, et je ris pas pour le chien.
Si. Mélodie, bonjour.
Tu n'as
Mélodie.
Pas de cœur, Fatima.
Mélodie, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que veut faire Patrick alors avec son chien Vanaïs?
Bien, en fait, moi, je trouve ça un peu bizarre dans le sens où ça peut porter à confusion, en effet, puisque s'il y a un autre nom qui apparaît, est-ce que en effet, il y a plusieurs personnes qui sont enterrées? Mais après, c'est vrai que moi, j'ai malheureusement eu un décès, c'est-à-dire que j'ai perdu ma fille, elle est née sans vie. Quand l'agent funéraire, il m'a dit, on peut mettre ce qu'on veut sur la pierre tombale. Dans le sens où j'ai eu un souci. La loi, elle est compliquée. Mmh. Aujourd'hui, elle est née sans vie, on n'était pas mariés avec mon mari, donc il a fallu mettre mon nom à moi sur le cercueil. Je dis bien sur le cercueil. Du coup, sur la pierre tombale, j'avais le droit de mettre le nom de mon mari. Donc, c'est aussi, il me dit, on met ce qu'on veut comme nom. Donc, je suis pas du tout de la partie au niveau des agents funéraires, etc. Mais du coup, par rapport à mon expérience vécue, ça, c'est vrai que du coup, je comprends pas qu'on dit, on met ce qu'on veut. Là, il n'y a pas le droit. Après, j'entends aussi qu'une question de, que du coup, il y a plusieurs personnes qui sont enterrées, on ne comprend pas très bien. Ça peut ouvrir la porte à tout et n'importe quoi.
Oui, vous dites qu'ensuite, ça peut effectivement autoriser des choses un peu farfelues où on met le nom de ce qu'on veut sur sa pierre tombale.
Après, il existe bien des cimetières pour chiens. chiens. Oui. Je sais que notamment, il y a l'un des plus célèbres de France, c'est le cimetière pour chiens de Nice, avec des sépultures qui sont saisissantes. Donc, à partir du moment où on considère que c'est un être vivant, doué, doté de sensibilité, je vois pas pourquoi, si tu veux, cet homme.
Parce que le chien n'est pas enterré
mettre,
là.
Je comprends bien. Mais tu peux mettre, voilà.
Oui, mais si tu commences à faire ça.
Oui, ça peut porter à confusion.
Tu peux mettre, oui.
Ouais,
on se dit bon,
oui, mais quand vous vous rendez au cimetière, vous vous rendez pour rendre hommage à une personne, même si le chien n'est pas là, mais qui a son nom, vous pouvez penser à cette personne et à celui qui a été son compagnon toute sa vie. Ils sont indissociables, vous comprenez. Alors on va voir ce qu'en pensent les GG, Mélodie. Antoine.
Moi, je suis très partagé parce que je vois dans mon entourage l'importance que peuvent prendre des animaux et en particulier des chiens dans la vie de certaines personnes. Mais en l'occurrence, là, le propriétaire du chien n'est pas encore enterré. Il s'agit pas de mettre le chien à côté de son propriétaire. Non. Il s'agit, en fait, de manière purement factuelle, de mettre le nom ou de vouloir enterrer le chien dans un système pour humains, dans un cimetière pour humains, ouais. où le maître n'est pas encore. Et donc, pardon, j'entends bien tout l'amour qu'on peut avoir pour ces animaux de compagnie, mais faut quand même qu'on se pose des limites.
Le maire a raison de faire respecter la règle.
Sinon, on enterrera les animaux dans les cimetières d'humains. Bon, voilà, on peut s'interroger, mais moi, j'y suis pas favorable.
Abel. Les animaux sont des êtres humains aussi, Antoine.
Ah non, les animaux ne sont pas des êtres humains.
Ils
sont des êtres vivants. Mais non, on n'est pas tous humains.
Après, ça dépend. Des êtres humains.
Mais ouais, bon. Des êtres vivants, sensibles, si tu veux. Mais c'est pas des êtres humains.
Bah, si, pour certains, si. Pour certains, l'animal, c'est comme un
enfant. J'ai déjà vu des êtres humains qui ressemblaient à des chiens.
Là, ça dépend de la considération personnelle. Alors, moi, je peux comprendre effectivement le côté déchirant sur le plan humain et le lien très fort qu'a pu avoir ce maître avec ce chien. Mais effectivement, je pense qu'il faut laisser les noms des êtres humains, comme tu le dis, des hommes, des femmes, des enfants, et puis laisser les animaux dans les cimetières pour animaux, parce qu'effectivement, ça va ouvrir la boîte de Pandore.
Ou alors, on s'enterre avec son chien.
Ouais, mais
parce que c'est même pas ça. Est-ce que ça pourrait être le scénario faisable, où il met son chien dans la même...
J'y ai pensé, mais ça, c'est les Égyptiens qui, au moment de mourir, tuaient tous leurs animaux de compagnie, prenaient tous leurs biens et on mettait tout en même temps.
Tu sais qu'il y a de plus en plus de demandes en ce sens. Des personnes âgées, leur chien va mourir, ils vont mourir ensuite, ils voudraient se retrouver ensemble parce que c'était le dernier compagnon.
On empaille les chiens, on les met avec.
C'est des relations qu'on a avec les animaux.
Moi, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir parce que c'est vrai que nous, bon, on n'a pas... Bon, toi, tu as un chien, il me semble. Voilà, donc moi je n'en ai pas, donc je peux pas comprendre la puissance du lien qu'il peut y avoir entre un chien et son maître. Mais je peux très bien comprendre que le nombre de demandes puisse augmenter dans les années à venir.
Fatima, est-ce qu'on doit autoriser à cet homme d'inscrire le nom de son chien sur sa pierre tombale, ou au contraire le maire a raison de fixer une règle?
En tout cas, c'est un sujet sérieux et la question va de plus en plus se poser. Parce que autant, en vrai, moi, je comprends le ah non, arrêtez de rire parce que ça va me remettre un fou rire. Je comprends vraiment le lien quand il dit c'est mon meilleur ami, c'est pas une image. Moi, j'ai une amie, son chien, elle le considère vraiment comme un membre de sa famille et son amour était tellement fort. Non, vous rigolez.
Non, pas du tout.
Son lien était tellement fort qu'effectivement, j'ai appris à travers son regard à voir cette possibilité-là. Et c'était pas du tout la façon dont j'ai été éduquée, moi, pour le coup. Donc mon rapport aux animaux chacun à sa place, enfin les animaux sont à leur place. Oui. Il y avait pas ce lien et puis on n'avait pas d'animaux spécialement. Mais avec les relations entretenues entre ma copine et ses animaux notamment, j'ai évolué sur ces questions-là. Donc la question va se poser de plus en plus.
Et ça ne choquait pas si la copine était enterrée avec ses animaux.
Non, je comprends l'hommage aussi, l'envie de rendre hommage, surtout que ça lui a sauvé la vie, son chien lui a sauvé la vie. Oui. En revanche, cimetière pour chien. Et que ça soit
le nom, le nom, ça n'a pas
alors,
de sens.
Alors non, parce que
là c'est le nom.
Oui. Simplement. Mais
il y aurait écrit ici J comment il s'appelle, Patrick.
Vanaïs.
Patrick. Je sais pas qui tout au long de sa vie, indissociable de Vanaïs.
Il a peur que ça fasse jurisprudence. Alors, et lui, ce que dit le maire, c'est que l'idée, le chien n'est pas là.
Vanaïs s'appelle.
Donc on dit qu'il est là alors qu'il n'est pas là. Donc il y a cette question.
C'est-à-dire que tu vas mettre.
Il y a Didier Giraud qui réagit parce qu'il nous écoute, Didier.
C'est vache, il veut ses vaches avec lui.
Il dit, vous êtes des malades. Moi, va falloir une grande tour pour mettre mes 130 vaches.
Alors attendez, parce qu'on a Marion qui veut apporter une précision, parce que Marion, elle est secrétaire de mairie du côté de l'Aube. Ah. Bonjour Marion. Ah.
Bonjour.
Bonjour, en plus vous occupez des rites funéraires. Il peut le faire ou pas, Patrick?
Bien sûr, en fait, c'est de la liberté. Les inscriptions sur la tombe, c'est la liberté de la famille, et le maire n'a pas le droit de s'y opposer. J'aimerais bien connaître ses arguments qu'il avance pour l'y opposer.
Alors voilà, parce que moi au début ça me semblait ubuesque, mais ce qu'il dit c'est que le chien n'est pas là.
Oui, c'est interdit d'enterrer les animaux dedans, ça c'est sûr. Mais par contre, écrire ce qu'il veut, il a le droit tant que l'inscription ne trouble pas l'ordre public ou n'est pas diffamatoire.
Mais on peut mettre, quel nom, pardon.
On peut mettre ce qu'on veut.
Par exemple, sur ma pierre tombale, alors je mets mon nom et je mets le nom d'un copain qui est pas là, mais parce que j'ai envie qu'il soit là. Ah bon?
Vous êtes sûr?
Vous êtes sûr de ça?
Non, on peut pas dire qu'il s'y repose, mais on peut dire à mon père, on peut même faire une blague.
Ce qu'il veut mettre, il veut mettre le nom de son chien avec les dates, j'imagine. Ouais.
Oui, il veut mettre les dates.
Bah oui, donc là, c'est comme
non,
si...
Non, on peut pas dire, il s'y repose le nom du chien. Mais il peut mettre à mon fidèle compagnon, et puis mettre le nom. Donc ça, il a très bien le droit.
Ouais, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre ici repose. Ici repose Patrick, qui s'est toujours occupé de son fidèle compagnon Vanaïs.
Voilà. Bah oui, et on n'a pas le droit de lui interdire.
À côté de la tombe de mon...
Donc en fait, tu triches un peu avec la règle.
Mais Patrick n'est pas encore enterré. Là, il veut le faire de son vivant.
Mais même, on a aussi le droit d'inscrire son propre nom avant d'y être enterré aussi.
Il veut mettre le nom de son chien.
On a le droit de mettre son nom dès maintenant si on veut.
Ah bon, mon grand-père avait son nom, sa date de naissance et pas encore gravé la date de mort à côté de ma grand-mère qui était déjà partie.
Il faut pas être superstitieux.
Il faut être super prévoyant.
Et le maire, je sais pas comment il va justifier de lui interdire.
Oui, puis Est-ce qu'on peut mettre une photo de l'animal? Est-ce qu'on peut rajouter une photo?
Ou une empreinte de papa?
Il peut faire une tombe rose fluo s'il veut. La famille a le droit. Il y a juste dans le règlement de cimetière, souvent les communes, elles limitent la hauteur des monuments ou des choses comme ça. Peut-être certaines les couleurs, mais on n'a pas le droit. S'il veut une tombe Hello Kitty, il fait une tombe Hello Kitty.
Donc il est dans son droit.
Le maire, je ne sais pas comment il va le justifier.
Merci Marion d'avoir apporté ces précisions. Merci beaucoup. Secrétaire de mairie à Ménil-Saint-Père, c'est ça?
Voilà, merci.
Il fallait pas que je le dise.
Mais je suis au boulot là.
En train de travailler, en train de
Salut régler. À la municipalité.
En télétravail.
Salut à la mairie de Ménil-Saint-Père.
Elle montre qu'elle est compétente
dans son travail.
Voilà. Exactement. À côté de la tombe de mon grand-père au cimetière à Cocade à Nice, il y a notamment un gars qui adorait jouer aux boules. Et ben il a fait graver ses boules. Si je puis dire, sur la pierre tombale, je te jure, le symbole de ces boules en tant que pétanquier.
Je ne juge pas et mon cœur reste ouvert, mais.
Tu mettrais quoi, Fatima, si
c'est pas une blague,
quelque chose
non,
autre
mais moi,
que...
ça va être très sobre, je vois pas.
Les
on va pas
de
mettre
ses élèves.
Des décorations, mais non, mais.
Le nom de tous les cancres.
Ah non, moi, c'est très sobre. Tous les cancres, c'est trop petit.
Allez, dans un instant, la Coupe du Monde. Est-ce qu'on a hâte d'y être? Est-ce qu'on a envie d'un air de fête, d'un air de sport, de s'emballer pour des équipes, même des équipes inconnues, simplement parce que ça va nous faire du bien? Ça démarre demain, la Coupe du Monde. Vous venez en discuter avec les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story, avec aujourd'hui Abel Boyi, avec Antoine Dierce, avec Fatima Hidbounois. On va terminer en parlant quelques minutes de la Coupe du Monde. Chanson officielle de la Coupe du Monde au Mexique, aux États-Unis et au Canada. RMC est la radio officielle de la Coupe du Monde. Vous suivrez les matchs, vous suivrez les coulisses, toutes les indiscrétions concernant ce mois de football avec 48 équipes. C'est inédit, à cheval sur trois pays.
40 journalistes RMC sur place.
Est-ce qu'on en a besoin de la Coupe du Monde? Est-ce que vous l'attendez avec impatience? Est-ce que vous avez hâte alors de vous emballer pour l'équipe de France? Puis la Coupe du Monde, c'est aussi souvent l'occasion de découvrir des petits pays, des équipes qui d'un coup t'emballent, tu aimes bien et ça fait du bien en fait.
Du pain et des jeux pour oublier nos problèmes. Je pense qu'en ce moment, le gouvernement attend avec impatience le début de cette Coupe du Monde et espère que l'équipe de France, emmenée par Didier Deschamps, ira le plus loin possible. possible. On dit même que les Bleus font partie des favoris. Je disais à une interview d'Arsène Wenger, l'ancien entraîneur d'Arsenal, qui disait que pour lui, la France allait gagner la Coupe du Monde. France-Sénégal, c'est mardi prochain. Le premier match d'ouverture Mexique-Afrique du Sud, c'est jeudi. Après, ça monte en puissance. Hein. C'est toujours pareil, la Coupe du Monde, et les matchs de poule. Et puis, petit à petit, si la France, effectivement, passe les étapes les unes après les autres, il peut y avoir un engouement. Je pense que les Français ont envie de ça. On a vu quand même les réactions. Alors, je ne parle pas de la casse, hein, de la délinquance, mais après la victoire du Paris Saint-Germain, il y a eu quand même, et pourtant c'est Paris, hein, mais il y a eu quand même de la fête un peu partout, ce qui est assez rare quand c'est une équipe parisienne qui gagne. Donc moi, je pense que ça va faire oublier tous nos tracas à la Coupe du Monde.
Alors, qui a hâte de s'emballer ? Antoine, bof. Abel, oui.
Moi, bof. Ben moi, je suis le foot, comme vous le savez, mais c'est vrai qu'avec l'actualité récemment, j'avais même oublié que la Coupe du Monde commençait là. Honnêtement, ça m'était totalement sorti de l'esprit. Alors que je suis le foot, j'ai même loupé le match France-Irlande du Nord. J'avais oublié qu'il y avait ce. Oui, ben j'ai vu après le replay avec le triplé de Michael Olysee. On en a besoin, mais honnêtement, je n'ai pas envie que la Coupe du Monde efface l'actualité par rapport à l'IANA. Honnêtement, je n'en ai pas envie. Après, l'équipe de France fera de l'audimat. Si on est champion du monde, tant mieux. On aura 2-3 jours où on s'aimera tous et on retombera dans la galère parce que les politiques vont encore nous diviser. Mais c'est vrai que je vais la regarder avec plus de recul que ce que je m'y attendais. Et moi, je suis vraiment focus.
Parce que ça n'a pas commencé.
Ouais, non, je connais mon état d'esprit.
T'as moins la tête à ça.
Je suis le foot depuis tout petit, tu vois, les Coupes du Monde, depuis que je suis né, j'en ai loupé aucune. C'est un événement que j'attends passionnément. Et il y a encore un mois, j'attendais l'événement vraiment de façon impatiente, en fait. Et personnellement, en moi, il y a quelque chose qui s'est cassé. Donc, je vais suivre les matchs de l'équipe de France. Les matchs que je pourrais suivre, je vais me tenir au courant. Mais c'est vrai que j'ai la tête ailleurs avec l'actualité du moment.
Thierry, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Vous avez hâte que ça commence, Thierry, le Lillois, ou pas?
Oui, je suis un passionné de foot. Hein. J'ai été en club dans un petit club d'un quartier de Lille. Et j'ai voyagé. J'étais en Italie en 1990, voir 3 matchs.
C'était pas la plus belle, celle-là. Mais enfin, hein. C'était pas la plus belle, celle-là, en 90.
Match, hein. C'est pas une belle ambiance italienne. C'était sympa. Hein. En 98, évidemment, j'étais sur place. J'étais à Lens, voir Croatie-Jamaïque. J'étais voir un match au Parc des Princes. En 2006, en Allemagne, à Cologne, j'ai vu Portugal-Angola, parce que beaucoup d'amis portugais. Et la dernière, en Moscou, en 2018, j'ai vu Belgique-Tunisie. Voilà, et je pense aller en 2030, en Espagne, voir un ou deux matchs. Voilà.
Avez hâte de découvrir plein d'équipes, en fait, avec
Oui. Et puis les équipes qu'on n'a jamais vues, peut-être, ouais, comme le Curaçao, comme l'Ouzbékistan, bon, évidemment, ils risquent de prendre des raclées. Mais au moins, ça change. Mmh. Et puis, voir et pour l'ambiance aussi, pour les ambiances que j'ai connues entre équipes, j'ai jamais vu un incident. Quand j'ai vu Belgique, Corée du Sud, j'ai échangé avec des supportrices coréennes, on a échangé les photos, on s'est parlé, c'est magnifique. Quoi, voilà.
Et puis ça permet. Enfin, Abel disait, faut pas que ça occulte tout ce qui se passe, quoi, voyez.
Ah non, bien sûr, ah ben non. Bon, avec le décalage horaire, évidemment, la télé, je suivrai moins de matchs. Bon, là, je vais me rabonner à Beansport, j'ai la chaîne belge qui fait voir tous les matchs gratuitement, donc. Mais quand c'est à 4h, 3-4h du matin, non. Et puis, c'est quand même l'actualité. Mmh. Hein. D'abord, je continuerai à écouter vos émissions qui, entre parenthèses,
sont c'est gentil.
Beaucoup. Tout le monde peut s'exprimer.
On compte sur vous.
J'ai plein de copains qui vous écoutent, qui vous regardent, même quand là, je suis en retraite actuellement. Mais quand on travaillait, on écoutait ça au boulot, on travaillait à la poste. Hein. Et ce qu'il y a de bien à votre émission, c'est que tous les courants d'idées peuvent s'exprimer. Et ça, c'est superbe. Contrairement à certaines radios publiques où c'est toujours la même propagande, vous, tout le monde peut s'exprimer. C'est super bien. Et je vous continue. D'ailleurs, j'ai votre livre. Et j'espère que ça va.
Merci de votre fidélité, Thierry, fan de foot et fan des GG. Achour veut intervenir aussi dans l'Essonne. Bonjour, Achour.
Bonjour, les GG.
Achour, comme Thierry, vous avez hâte que ça commence ou pas?
Ça commence pas, c'est pas le problème. Oui, ça, c'est populaire le foot, ça va. Il n'y a pas de souci, ça va rassembler beaucoup de communautés, quelles qu'elles soient, autour d'un sport populaire. Ça va être un peu festif, tout ça, voilà. Mais moi, je pense comme un certain nombre de Français, je pense que je suis pas le seul. Hein. Après, si je suis le seul, tant pis, voilà. Nous, ce qu'on a la peur, c'est une crainte, c'est encore des débordements lors de matchs et de la Coupe de l'équipe de France, tout ça, voilà, parce que.
Ça gâcherait la fête.
Donc, je me dis, allez. Vivement qu'il rentre, comme ça, au moins.
Ah oui, carrément. Au fond de vous-même, vous souhaitez la défaite de l'équipe de France.
Oui, tout.
En même temps, je vous dirais qu'il y a des commerçants parisiens qui souhaitaient que le PSG perde parce qu'ils craignaient les débordements. C'est terrible.
On va parler des policiers aussi qui aimeraient justement, qui sont peut-être à mon avis sur le qui-vive, qui vont se poser des questions.
Oui, il y aura autre chose à faire.
Parce qu'il y a des communes qui vont tout organiser avec des écrans géants, des lieux fermés, des choses sécurisées pour ça, voilà. Mais en dehors des fan zones, qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien du tout.
Donc Thierry, à la fois emballé par la Coupe du Monde mais inquiet des débordements éventuels. Fatima.
Je partage un peu.
Achour et Thierry.
Je partage son point de vue. Moi, je suis à la fois heureuse pour les fans parce qu'on a besoin de joie aussi. Donc, on ne va pas s'empêcher de vivre et d'avoir des bons moments. Mais je ne suis pas dupe du tout et je ne suis pas prête à lâcher les politiques. Je ne suis pas dupe d'une chose. Tu dis opium, c'est ça, le foot, opium du peuple.
Ah oui,
les politiques
aussi
comptent sur ça. Mais là, c'est plus que ça. C'est plus que les faits. Ils comptent sur le foot Xanax du peuple, le foot somnifère du peuple. Tout est fait pour qu'on oublie.
L'équipe de France gagnait, ils se disent, voilà, ça sera un moment
de
euphorie.
Mais moi, je vous dis, on va avoir un moment de euphorie. Mais on n'oublie pas, et comptez sur moi pour être un moustique. Nous allons être des moustiques. C'est quoi le moustique? C'est celui qui t'empêche de dormir, qui va être peut-être tout petit, tout vulnérable comme ça. Mais le moustique, quand il a décidé de pas te lâcher, il est là. Donc nous, on va être les moustiques des politiques. On va dire, OK, il y a le foot, mais la pédocriminalité,
exactement,
n'oublie pas, on t'attend au tournant. Mais les histoires de sécurité, ne t'attends pas, on t'attend au tournant. Et surtout, le gouvernement qui est en place, parce que j'ai l'impression qu'ils sont là depuis combien d'années, ils sont là. Il reste un an, j'ai l'impression, c'est comme la dernière minute de la machine à laver qui dure plus longtemps que les autres. Cette année, elle compte double cette année. On dirait que ça fait 10 ans qu'ils sont là.
Donc
on va pas les lâcher jusqu'à la présidentielle.
Mais moi, tes élèves, parce que t'es en collège, est-ce qu'ils vont arborer les couleurs?
Mais offrez-nous des choses, parce que mes élèves me disent, madame RMC, mais moi j'ai jamais de cadeau RMC pour mes élèves.
Je croyais que t'avais posé une question.
Invitez les élèves.
Je croyais que t'avais posé une question, là t'es parti en roue libre.
Non mais les élèves, ça m'embête parce que
ils vont venir avec les maillots de foot, avec
Moi, les élèves, ça m'embête un peu parce que le brevet n'est pas passé.
Voilà,
donc,
ça va les distraire.
Le brevet n'est pas passé.
Mais il t'a posé une question quand même.
Merci Fatima, merci Abel, merci Antoine. Maintenant ça continue avec Estelle Denis. Bonjour Estelle. Ah pardon.
Alain, salut les GG. Écoutez, dans un instant on va parler du parquet de Nanterre qui requiert l'incarcération de Patrick Bruel. Est-ce qu'il faut en faire un exemple de Patrick Bruel dans la lutte contre les violences faites aux femmes? Bah, écoutez, on en parle dans un instant dans Estelle Midi. Appelez-nous 3216. On parlera de ces plages de plus en plus nombreuses autorisées aux chiens cet été à Mandelieu-la-Napoule. Alors la plage, elle est autorisée aux chiens tenus en laisse, mais chien, tu peux lui enlever sa laisse pour qu'il aille nager avec toi.
Ah bon,
c'est formidable, non, mais c'est incroyable. Donc il y a 2000 plages autorisées aux chiens en France. Pour ou contre ces plages justement, bah, écoutez, on en débat avec vous à midi et demi. On parlera d'un couvre-feu pour les mineurs à Clermont-Ferrand et à Toulouse pendant la Coupe du Monde. Bonne ou mauvaise idée, ça ce sera à 13h30. Et puis à 14h, je ne sais pas si vous avez vu ce chiffre, 12% des Français font le choix aujourd'hui en 2026 de ne pas avoir d'enfants. C'est deux fois plus qu'il y a 20 ans. Est-ce que pour vous ce choix il est égoïste ou il est compréhensible? Eh bien écoutez, on en débattra avec vous à 14h. Donc dites-nous si par exemple, eh ben, vous ne voulez pas avoir d'enfants, expliquez-nous.
Oui, pourquoi.
Et puis il y a beaucoup aussi de parents qui se disent qu'ils n'auront pas aussi de petits-enfants. Dites-nous si
on peut en donner quand on en a trop. Est-ce qu'on peut donner à ceux qui n'en ont pas?
Je crois que ce n'est pas possible, Olivier.
Je trouve que ça serait une bonne chose.
On ne parle pas évidemment de ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants. On parle de ceux qui choisissent de ne pas en avoir. Et le tu préfères?
Do you prefer?
Ça va te parler, Alain.
Ah, oh.
Ah, mais si. Concert debout ou concert assis?
Debout. Mais debout.
Ça dépend ce que tu vas voir.
Le plus près possible, à 10 mètres de la scène, si c'est possible.
Avec des gens qui te bousculent.
Mais tu t'en fous, tu partages ta passion.
Ça dépend si c'est un concert classique.
Moi, je partage pas ma sueur.
Ça dépend si c'est un concert classique ou pas.
Le plus longtemps que j'ai attendu.
C'est assez rare d'aller danser sur
scène. C'est un opéra debout, c'est long.
6 heures, c'était pour Springsteen.
Les Rolling Stones en 82. C'était 6h et Springsteen 5h30.
Aujourd'hui, Alain, tu peux plus tenir 6h
de concert. Et puis après, 3h de concert.
Ah ouais,
8h, 9h. Allez, bonne émission avec Estelle au 32-16.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.